Eh bien, c'est le baptême de Michael. Et ça, c'est un événement. Ah ouais. Ah ouais. Tu vois, j'ai même pas besoin de le demander, Mike. Ça, c'est un événement. Et puis, c'est aussi la présentation de deux enfants, Timothée et Harry. On peut les applaudir aussi. C'est toujours une joie et un bonheur. Et je sais qu'on aime bien coupler les deux, baptême et présentation. Parce que pour la plupart d'entre nous, qui ne connaissons pas les églises protestantes et encore moins les églises évangéliques, le baptême, ben c'est tôt. C'est tôt. Moi, j'ai grandi dans une autre confession chrétienne. Et enfant, on m'a baptisé, j'étais bébé, on m'a baptisé quand j'étais bébé. Et puis, ben, c'est plutôt la tradition en France, on baptise les bébés. Et puis là, voilà qu'on nous parle de baptême d'un adulte et de présentation de bébés. Mais pourquoi on ne baptise pas les bébés? Eh bien, j'ai essayé de vous y répondre ce matin. Tout simplement parce que dans notre façon de vivre notre foi, la seule chose qui pour nous représente le repère, eh bien, c'est ce fameux livre. Et c'est vraiment autre chose qu'un livre, je peux vous le dire. Je vous parle ici de la Bible, qui est un repère de vie, qui est le livre de vie et qui inspire la plupart des gens qui sont dans ce lieu ce matin ensemble pour louer Dieu. Et dans ce livre, eh bien, on nous parle d'enfants qui naissent. On nous parle d'enfants qui naissent et puis, alors il y a très longtemps, là je monte dans l'Ancien Testament, on nous parle d'une femme qui voulait tellement avoir un enfant. C'était tellement fort dans son cœur. Elle priait, mais elle était stérile. Cette femme s'appelait Anne. Et vous allez dire, mais on ne connaît pas cette Anne. Et c'est vrai que quand on retrouve son histoire dans le livre de 1 Samuel, le premier livre de Samuel, on se dit, mais c'est qui cette Anne? Qu'est-ce qu'elle vient faire? Dans le livre de Samuel en plus, on nous parle de Anne. Et Anne voulait un enfant et elle ne pouvait pas en avoir, elle était stérile. Alors elle a prié, elle a prié, elle a prié, elle a cherché Dieu et Dieu lui a accordé d'avoir un enfant. Waouh, elle était contente, son mari était content aussi. Parce que c'était vraiment, vous savez à l'époque ils avaient plusieurs femmes et il aimait particulièrement cette femme-là. Et elle a été frustrée de ne pas pouvoir lui donner un enfant. Et elle lui a donné un enfant par la grâce de Dieu, c'était un fils qui s'appelle Samuel, c'est celui qui est l'auteur de ce livre. Et on nous dit donc dans 1 Samuel, au chapitre 1er, au verset 22, puisqu'elle avait enfin eu son bébé, parce qu'elle était enfin heureuse, enfin contente, mais Anne ne monta pas, car elle dit à son mari, « Lorsque le garçon sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. » Elle avait cette envie d'obéir à Dieu et de lui présenter le bébé en lui disant, voilà, c'est le bébé que tu m'as donné, je te le présente. Vous savez, moi, quand ma femme a accouché, toute ma famille savait qu'elle était enceinte. Alors, il arrive qu'on ne sache pas. Des fois, il y a des surprises. Il y a des femmes qui accouchent et c'est vrai que ça surprend toujours. Il y a des femmes qui accouchent et elles ne savaient même pas elles-mêmes qu'elles étaient enceintes. Mais moi, toute ma famille était au courant. Alors quand mon fils aîné qui est là avec son petit frère, et puis quand, à chaque fois qu'ils sont nés, qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai présentés à mon papa et à ma maman. Et voilà ton petit-fils. Et ils étaient contents pour moi. Et ils étaient heureux. Et dans leur cœur, ils n'avaient qu'une seule envie, c'est que ces enfants grandissent et réussissent dans leur vie. Est-ce qu'il y a des parents ici? Moi j'en ai quatre. J'en ai quatre. Je vois qu'il y a des parents. Est-ce que pour vos enfants, à la rigueur, ben peu importe qui leur arrive, on s'en moque. Ou est-ce que vous avez envie qu'ils grandissent et qu'ils réussissent? C'est ça que vous avez envie. Eh bien, moi c'était pareil. J'avais envie qu'ils grandissent et qu'ils réussissent. Et quand je les ai présentés à mon papa, à ma maman, eh bien, eux-mêmes avaient envie qu'ils réussissent et qu'ils grandissent. Et Anne, elle avait dans le cœur que Dieu est son père. Et elle avait envie de présenter son bébé à son père. Elle avait envie de faire comme ça. Alors elle l'a présenté et ce bébé a grandi. C'est devenu un prophète, Samuel. Et c'est le prophète, juste pour information, qui a oint ce roi qui s'appelle le roi David. Alors vous allez me dire, c'est qui ce roi David? Ben, c'est celui de l'histoire de David et Goliath. Vous savez, tout le monde connaît, hein, la fronde dans le front et le géant qui tombe. Ça paraît incroyable, mais pourtant c'est la vérité. Amen. Et puis, plus récemment, plus proche de nous, c'était il y a à peu près 2000 ans. Donc c'est pas si long. 2000 ans, ça va vite, vous savez. Oui, ça. Bon, j'ai pas de souvenir, hein, j'y étais pas, mais 2000 ans, ça va très vite. Un autre enfant est né. Un enfant qui visiblement était comme les autres. Mais cet enfant, c'était Jésus. Et ce Jésus qui a grandi et qui a laissé une empreinte tellement forte sur la terre qu'aujourd'hui encore des gens se réunissent uniquement pour l'adorer, eh bien ce Jésus aussi n'a pas été baptisé bébé, mais il a été présenté à Dieu. Alors j'ai pas pris toute l'histoire, mais juste le verset qui nous intéressait, et on retrouve ça dans Luc 2, et le verset 22. Et vous allez voir que pour ce Jésus qui a une tellement grande importance pour nous chrétiens aujourd'hui, eh bien ça s'est passé aussi comme ça. On voit à partir du verset 22, et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, donc selon la loi des Juifs, encore aujourd'hui, on l'amena à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Voilà, on le présente à Dieu. On a présenté le bébé à Dieu. Et on a beaucoup cherché, on a regardé. Je ne vais pas avoir la prétention de vous dire que je connais la Bible par cœur, ce serait un mensonge, mais on a regardé. Et nulle part dans la Bible, je n'ai lu, moi, personnellement, de baptême d'enfants. Alors, quand moi-même j'ai eu mes enfants, j'ai eu envie de les présenter à mon Père céleste, à mon Dieu. Bien sûr, les grands-parents, ils avaient eu droit avant, ils avaient la primeur, mais Dieu, vous savez, je ne cache rien à Dieu. Qu'est-ce que je pourrais lui cacher de toute manière? Et puis, je les ai pris dans mes bras, je les ai donnés à un pasteur, j'aurais dit, présente-les à Dieu. Et c'est ce que nous allons faire ce matin, avec Timothée, avec Harry, avec leur famille. Et vous allez me dire, mais alors pourquoi on baptise? S'il suffit de présenter, pourquoi baptiser? Et c'est là que tout l'enseignement de Jésus prend son importance. Je vais encore prendre juste un petit verset. C'est pas la peine d'en prendre 36, quand un suffit. On est dans Marc, au chapitre 16, et on va prendre juste le verset 15. Non, juste le verset 16, pardon. Voilà. Le verset 16 du chapitre 16 de Marc nous dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Ici, on nous parle de baptême de gens qui croient. Alors, je pourrais vous faire une simple démonstration ce matin. Je pourrais poser la question. Timothée, est-ce que tu crois? Bon, alors, s'il croit, Timothée, c'est juste la croissance. Parce que pour l'instant, il ne peut pas me dire qu'il croit. Harry, est-ce que tu crois? Harry, pour l'instant, il s'en moque un peu de ma question. Vous savez, c'est pas important pour lui. Alors, est-ce que, d'après ce que je viens de lire, celui qui croira sera baptisé? Est-ce que je peux baptiser cet enfant? Je ne sais pas s'il croit. Moi-même, mes enfants, mon fils aîné a 14 ans, et on n'a pas encore pris de décision pour le baptême, parce que je veux vraiment que le jour où il va me dire « je vais me faire baptiser », je veux qu'il me le dise avec toute la foi qu'il a dans le cœur. Je veux que pour lui ce soit important. Je veux pas que ce soit juste, allez, viens, on va te mettre dans l'eau, et puis, non, c'est pas ça. C'est plus important. Par contre, si je te dis, Michael, est-ce que tu crois? Michael, il m'a dit qu'il croyait. Et là, il m'a répondu, c'est vrai? Ou tu me dis ça pour me faire plaisir? C'est la vérité, les amis. C'est la vérité. Michael, il croit. Alors, on va le baptiser ce matin. Amen. On va le baptiser ce matin, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est ça qu'on va faire ce matin. Alors je vais laisser le culte se dérouler et on va passer à cet acte important du baptême. Je vais laisser la place à Michael pour qu'il puisse apporter le témoignage de pourquoi il croit. Qu'est-ce qu'il croit? En quoi il croit? Est-ce qu'il croit que cette chaise est bleue? Moi aussi je le crois, mais je le vois. C'est facile. Mike, en quoi tu crois? Viens nous dire ça. On peut l'encourager, les amis.
Bonjour tout le monde. Bon, je vais essayer de bien articuler. Vous pouvez râler si j'articule, si je vais trop vite. Alors, moi, je m'appelle Michael. Je suis né dans une famille chrétienne, une famille évangéliste. Plus fort. Articule. Je suis né dans une famille chrétienne et on m'a appris l'existence de Dieu, on m'a appris l'histoire de Jésus, l'histoire de la Bible, les valeurs de la Bible en fait, les lois que Dieu a fixées pour l'homme. J'allais tous les dimanches matins au culte pendant jusqu'à mon adolescence. Étant ado, j'étais vraiment ouvert à Dieu. J'étais à l'écoute en fait de l'enseignement qu'on recevait étant plus jeune, mais j'étais pas heureux en fait étant plus jeune, par rapport après avec les amis tout ça, je me sentais pas que j'avais ma place dans ce monde en fait, je me sentais pas à ma place. Et à un moment en fait j'ai laissé tomber Dieu. Même si j'ai toujours cru en lui, toujours cru que Jésus était venu sur terre, mais je voyais pas en quoi moi ça me touchait, en quoi moi j'étais impliqué dans ça, que moi j'avais ma vie, j'allais à l'école, je faisais ma vie, et en quoi moi je suis impliqué dans ça, en quoi il a fait ça pour moi. Du coup j'ai vécu ma vie à ma façon quoi. Qu'est-ce que je voulais dans ma vie en fait? Je voulais avoir des amis, je voulais être le bon pote. Je pense que j'essaie d'être bien selon mes principes. Si t'es bien avec moi, je suis bien avec toi. Compter sur ses amis et pas compter sur n'importe qui. Savoir sur qui on peut avoir confiance. Et écoute, être en accord avec sa conscience, être en accord avec ses principes, comprendre où est sa place. Et voilà, c'est comme ça que j'ai avancé dans la vie. J'ai fait aussi mes études. Les études sont bien passées, j'ai eu mon diplôme. Merci mes potes pour les cours quand je rattrapais sur eux. Pour les devoirs que j'ai copiés, j'ai piqué. Voilà. J'ai vécu ma vie. J'ai eu mon travail. Mes études sont finies. Tout se passait bien dans ma vie. Pas de problème, pas de maladie, rien. J'ai aucun problème dans ma vie. J'ai mes amis. J'ai tout qui est. Tout va bien. Mais non, tout va pas bien en fait. J'avais pas de but en fait, pas de projet. Je savais pas pourquoi je vivais, pourquoi j'avançais. Alors on se fixe des choses, on dit voilà, là je suis dans mes études, il y a quelque chose qui me manque, je sais pas pourquoi je continue d'avancer. Et tu te dis c'est tout. Après que j'aurai fini l'étude, je trouverai mon travail. Et quand tu as ton travail, tu te dis c'est tout, je vais attendre d'avoir ma famille. Et tu continues d'avancer comme ça, mais tu sais pas pourquoi tu avances. Je savais pas pourquoi j'avançais, pourquoi j'avance, qu'est-ce que je cherche. À ce moment-là, tout ce que je me disais, c'est profite de la vie. Fais tes soirées, passe du temps avec tes amis, c'est ça le plus important. J'avais que ça, quoi. Il y a que ça qui me faisait rire, qui me faisait passer des bons moments. Et je les remercie, tous mes amis, pour les moments que j'ai passés avec eux, c'était cool. Je vais pas le dire autrement, je trouve pas d'autres mots. Faire la fête, mais... La fête, ça se finit. La fête, ça, du jeudi soir au dimanche matin. Et après, c'est fini. Et il n'y a pas d'équilibre dans ta vie, en fait. Tu sais pas. Quand la fête se finit, c'est tout. Tu sais pas pourquoi. Tu sais pas pourquoi t'es là. Et donc, j'avais un mal-être. Et t'évacues le problème. Tu passes beaucoup de temps avec tes amis. Tu fais du sport. Tu t'occupes. Faut vraiment s'occuper. Pour pas avoir de doute dans sa vie. vraiment s'occuper, fonder une famille, tu vas avoir des enfants. Est-ce que moi, j'avais pas de copine. D'un côté, je me disais, bah, une fois que j'aurai une copine, c'est bon, je fonderai ma famille et puis la vie, elle continuera. Mais est-ce que vraiment, déjà, est-ce que vraiment j'aurai assez d'amour pour quelqu'un d'autre? Est-ce que vraiment quelqu'un d'autre pourra avoir assez d'amour pour moi? Est-ce que vraiment comme ça, ma vie aura vraiment un équilibre? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que vraiment, qu'est-ce que je veux vraiment pour ma vie? Est-ce que c'est vraiment une famille que je veux construire? Je sais pas. Et en fait, il y a un an, où j'avais envie vraiment de tout quitter, je finissais une relation avec une fille, j'ai envie de quitter mon travail, j'ai envie de quitter tout, j'ai envie de partir au Canada, je veux recommencer à zéro, je veux tout plaquer. Je pouvais plus faire de sport parce que j'avais mal, j'avais des douleurs au genou. Moi, je suis un peu têtu, j'ai pas été au médecin, tout ça, mais j'étais faire du kiné, mais ça faisait rien. J'avais vraiment mal au genou, du coup, je faisais plus de sport, plus loin de se vider la tête. J'étais blasé, quoi. Et je me suis dit, je vais donner une chance à Dieu parce que j'avais toujours cette image quand j'étais petit. Je voyais ces gens qui étaient convaincus, qui vivaient leur foi. J'avais gardé cette image des gens qui étaient heureux, qui savaient pourquoi ils étaient là sur cette terre. Et je me suis dit, je vais donner une chance à Dieu. Je vais voir si moi, je peux arriver à cet état-là. Donc, environ novembre dernier, j'ai commencé à aller à l'église. Je me suis dit, je vais voir si moi, je peux avoir cette place-là, si je peux me sentir que j'ai ma place sur cette terre. Parce qu'au final, quand j'avais mes projets, je disais, ouais, je vais partir au Canada, refaire ma vie. Mais refaire ma vie pour trouver quoi? Est-ce que, au final, refaire des amis, retrouver un travail? Et voilà, je revenais à la position de départ. Il n'y avait rien qui avait avancé. Et d'un côté, j'avais du mal à me dire que j'allais à l'église. Ben, l'église, pour moi, ce n'était pas fait pour moi, quoi. Pour moi, c'est un moule. On te dit de penser comme ça. T'as une vie rangée. Bon, tu dois te montrer bon avec tout le monde. C'est pas facile. Tu dois agir. Et puis il y a le côté jugement. Tu dis qu'à l'église c'est le jugement, qu'il faut faire attention quand tu agis. Attention, il faut faire attention à ce que les gens vont penser. Il faut toujours faire attention au jugement des autres. Et moi j'aime pas ça, quoi. C'est ma place, je l'ai, c'est tout. Ne me dis pas comment je dois me faire, comment je dois me comporter. Et il y a le côté que pour moi dans le monde tu dois être. T'as le côté loup, quoi. Il faut être comme un loup. Faut pas compter trop sur les autres. Si quelqu'un t'attaque, tu l'attaques. Faut pas être faible dans le monde si tu veux vivre. Alors pour moi l'église c'était, on t'apprend pas ça, quoi. On va t'apprendre à être faible et tu vas juste te faire marcher sur les pieds. Mais j'ai quand même été à l'église pour l'espoir de pouvoir trouver ma place, pour l'espoir de l'image que j'avais de gens qui vivaient leur foi et qui étaient convaincus qu'ils avaient leur place sur la terre et l'espoir que moi aussi je pouvais avoir ma place. Pour les témoignages que j'avais vus de gens qui vivaient leur foi. Donc moi je disais, bah, si moi je peux trouver ma place comme ça, bah, c'est tout. Et si je la trouve pas, bah, c'est pas grave, je passerai à autre chose. Je donne quelques mois. Il était novembre, je me disais, ouais, vers avril j'aurai des réunions avec des entrepreneurs en fait, qui viennent ici en France, des salons en avril, et qui cherchent des gens pour partir là-bas au Québec. Du coup je me suis dit, bah, voilà, on est novembre, j'ai quelques mois jusqu'à avril, et si vraiment je trouve ma place ici, bah je reste, mais sinon c'est pas grave, je passe autre chose, sinon Dieu est pas fait, Dieu me donne pas ma place, et moi je continue, je passe. Et vraiment en fait, quand je suis venu ici, quand j'ai pris ma place ici, dans cette église, hein, quand j'étais là, au fond, là-bas, comme chantier, je me sentais peu à peu que quelque chose est agréable, que c'est agréable pour moi. Que ça me faisait du bien en fait, que j'avais besoin d'être là le dimanche, que vraiment ça me donnait une bouffée d'air. Donc c'est pour ça que j'ai continué à venir. Peut-être que j'aurais pu lâcher dès le début en fait, mais non, j'ai continué, je me suis dit ça me fait du bien, j'ai continué, même si des fois le matin, le dimanche matin c'est difficile, que je suis parti à la soirée hier, j'ai peut-être un peu trop bu, mais c'est pas grave, j'ai quand même me pointé, tant pis si on me critique, si on dit lui, il a l'air pas frais, tant pis je viens quand même et ça me fait du bien, tant mieux. Et si eux, ça les gêne, bah tant pis, je m'en fous. Peu à peu, j'ai commencé à me poser des questions. Bah, la Bible, ok, j'ai une famille chrétienne, mais la Bible, je ne la connaissais pas, en fait. Je ne savais pas ce qu'elle contenait. Bah, ok, les histoires, je les connais, hein, David et Goliath, comme on disait, tout ça, je les connais, les histoires, mais je ne sais pas ce qui était vraiment écrit. quel principe de vie applique la Bible, demande d'appliquer la Bible plutôt. Et je ne sais plus qui m'en a parlé, mais quelqu'un m'a dit, oui, il y a des études bibliques le mardi. Bah, je l'avais vu les annonces X fois, mais je me disais, ça c'est pour les gens qui veulent se prendre la tête, voilà. Et quelqu'un m'a dit, oui, bah, si tu veux, moi, bah, je pense que c'était un jeune qui allait et qui m'a dit, bah, viens, c'est accessible, viens, c'est juste pour apprendre ce qu'il y a dans la Bible. Bon, la première fois, je me souviens que j'étais à l'étude biblique, c'était un peu genre, vous cherchez le verset, moi je galérais et tout ça. Mais je me souviens qu'en allant cette première fois à l'étude biblique, je me suis dit, Seigneur, tu vois, je vais dimanche matin à la louange. Ok, c'est bien, on loue, je sens que mon esprit d'un côté s'ouvre. Mais qu'est-ce qui a changé réellement en moi? Rien n'a vraiment changé en fait. En quoi je deviens un chrétien? Et je me souviens de cette première leçon, c'était lis la Bible. Si vous voulez rentrer dans la vie chrétienne, lisez la Bible. C'était cette première séance. Et ça m'a vraiment touché. C'était bon. C'est peut-être pour moi. Donc je vais écouter et je vais commencer à lire la Bible. Et ça a commencé à faire son travail, à ouvrir mon esprit. Vraiment, j'ai commencé à me dire ok, il y a ces principes-là et c'est peut-être ça la vérité. Mais j'étais pas encore touché dans mon cœur en fait. Il y avait encore une étape à franchir. Un jour ça me touchait, un jour ça ne me touchait pas. J'étais entre deux côtés. Et je me souviens qu'une fois, il y a eu le concert de Stéphane Kerry. Je crois que c'était en avril ou en mai, je ne sais plus trop. Et je me souviens, j'arrive en retard, comme d'habitude. la salle était pleine. Donc, je m'installe là-bas sur l'escalier, dans mon petit coin, tranquille. Il y a beaucoup de monde, donc voilà. Tout le monde est à fond, loue Dieu. Ok, et je me souviens, en fait, ce moment-là, il m'est revenu, il y a juste là, pendant qu'on louait. J'avais carrément zappé, en fait, ce moment-là. Et j'étais là-bas, sur l'escalier, et je me souviens que j'ai la vision, je vois tout le monde heureux, qui chante, et je me dis, je me souviens même que je voyais Or, Aurélie était convaincue, était là, ouais, Jesus. Et franchement, je regardais Aurélie, j'ai fait, franchement, je trouve ça super cool, que ces gens, ils puissent ouvrir leur cœur et qu'ils puissent vivre l'amour de Dieu. Et j'ai fait, Seigneur, merci pour ce que tu apportes. Même si moi, je n'arrive pas à y rentrer, même si je suis trop sur la défensive, que je vis ma vie à ma façon, j'ai regardé ces gens-là qui louaient et j'ai dit, Max, merci Seigneur pour le travail que tu as accompli ces gens. Et ce concert-là, en fait, il y a vraiment quelque chose qui s'est déverrouillé en moi. C'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit que j'avais ma part. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai compris l'amour de Dieu pour moi. Et je me souviens de cette chanson de Grâce Infinie qui dit « J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. » Et ça m'a vraiment marqué à ce moment-là. Vraiment, à partir de ce moment-là, je me suis dit peut-être, vraiment, je me suis senti guidé dans ma vie. Je me suis dit ben voilà, je remets tout à Dieu et maintenant, voilà, t'as ma vie, et vas-y, guide-moi. Et donc, voilà. Et, si je dois répondre aux questions que j'avais, est-ce qu'aujourd'hui, je me fixe des objectifs pour l'avenir? Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à avant, est-ce qu'aujourd'hui, je peux fixer des objectifs sur la vie? Ben non, en fait, non. Mais je remets ça à Dieu, je le laisse guider. Est-ce que pourquoi j'étais mal dans ce monde? Parce que j'avais besoin de la justice de Dieu. Parce que je veux que celle soit. Pour moi, ce monde n'avait pas vraiment de sens. Et que c'est vraiment par Dieu qu'existe la justice, que c'est vraiment par Dieu que ce monde prend un sens. Que ce monde ne peut être qu'une étape, qu'ici on n'aura pas. On ne peut pas trouver la justice. Et pour moi, l'amour ne pouvait pas venir de quelqu'un d'autre. L'amour ne peut venir que de Dieu. Amen.
Waouh. L'amour ne peut venir que de Dieu. L'amour ne peut venir que de Dieu. Alors, j'ai demandé à Chanel et à Annette de venir avec Harry et Timothée. Parce que notre désir le plus cher, c'est d'un jour pouvoir entendre ce genre de témoignage de leur propre bouche. C'est vraiment ce qu'on a envie, c'est que ces enfants puissent un jour prendre la décision de vivre pour Dieu. Viens Annette, viens Harry. Alors vous allez le voir, ils n'ont pas le même âge. Mais j'aimerais quand même qu'on puisse applaudir les mamans. Vraiment. Parce que élever un enfant, porter un enfant, bien évidemment, j'aurais jamais le bonheur de porter un enfant, mais je sais qu'élever un enfant, c'est un défi de tous les jours, c'est un challenge, et elles ont décidé de le relever, et moi je pense que c'est vraiment important de les encourager. Amen. Et je vais inviter les familles aussi à se rapprocher, les grands-parents, les arrière-grands-parents, venez Jacques et Jacqueline, venez. Alex, viens. Voilà. Vous voyez, c'est ça la vie. C'est un jour on a un bébé, ensuite on devient un ado, un adulte, un parent, un grand-parent, et puis on a même ici des arrière-grands-parents. Vous vous rendez compte comme c'est beau ça? C'est magnifique. Une, deux, trois, quatre générations. C'est magnifique, non? Et les quatre générations qui sont attachées à nous, c'est vraiment merveilleux, c'est une grâce. Alors on va prier ce matin. On va prier pour ces enfants. Et puis, on va les bénir. Est-ce que vous voulez vous lever avec nous pour pouvoir les bénir? Minute. Allez, prête-le-moi. Alors là, il dort. Hein. Comme ça, ça va aller? Ouais. Je te le rends, hein, t'inquiète pas. Hein. Vous voyez comme c'est magnifique? Ça, c'est la vie. Alors je priais pour Timothée. Seigneur mon Dieu, quelle grâce infinie. Quel cadeau extraordinaire, Seigneur, que de nous confier la vie. Seigneur, je te rends grâce parce que dans le ventre de Chanel, tu as fait pousser Timothée. Tu l'as tissé, comme nous dit ta parole. Et tu as marqué tous les jours de sa vie dans ton livre. Et Seigneur, ce matin, notre prière, notre désir en te présentant Timothée, c'est qu'il puisse grandir en ayant la crainte de Dieu dans le cœur, qu'il puisse grandir en connaissant son Père éternel. Bien sûr, il sera attaché à ses parents, et je te demande qu'il puisse grandir en obéissance et en sagesse, en espièglerie et en amour. Mais Seigneur, qu'il soit attaché à ta parole, qu'il puisse grandir en connaissant Dieu, et qu'un jour il puisse prendre une décision au sujet de Jésus qui a donné sa vie pour lui. Que cette décision soit oui et amen. Et que nous puissions entendre, comme nous l'avons entendu ce matin, son témoignage le jour de son baptême. Seigneur, nous le bénissons ce matin. Et nous te demandons aussi de le bénir, parce que ta bénédiction est bien plus importante que la nôtre. Père, au nom de Jésus, bénis Timothée que nous te présentons ce matin. Amen. Amen. Je demandais à une grand-mère de prier. Laetitia, tu veux bien prier?
Oui, Seigneur, je te remets Timothée, Seigneur. Je te remercie pour cet enfant que tu as permis que tu as donné à Chanel, ma fille, Seigneur. Merci pour ce petit-fils que tu nous as donné, Seigneur, aussi à nous. Merci, Seigneur, pour Alexis, qui nous a fait un beau petit garçon, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ces grands-parents aussi paternels. Merci parce que tout cela réuni, Seigneur, on fait qu'aujourd'hui, il y a un magnifique petit être merveilleux qui est là, Seigneur, et que tu vas élever, Seigneur. Je te le remets, Seigneur, au pied de ton trône, mon Dieu. Et je te prie, Seigneur, pour que tu en fasses un grand serviteur, Seigneur, de pour ton royaume, Seigneur, pour qu'il puisse, Seigneur, vraiment servir pour ta gloire, Seigneur, qu'il puisse annoncer ton nom, Seigneur, qu'il puisse vraiment te glorifier dans sa vie, tous les jours de sa vie, Seigneur, qu'il puisse amener ses enfants aussi, Seigneur, à ton trône, Seigneur. Vraiment, Seigneur, je vais loin parce que, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, c'est un petit enfant, Seigneur. Mais toi, je sais que tu vois déjà, Seigneur, les jours qui vont, les jours de sa vie devant toi, Seigneur. Et toi, tu les connais d'avance. Et je te demande, Seigneur, vraiment de poser ta main sur lui, Seigneur, et de le bénir, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, de le préparer, Seigneur, et de donner la sagesse à ses parents, Seigneur, pour qu'ils puissent l'instruire, qu'ils puissent l'amener, Seigneur, vraiment loin avec toi, Seigneur. Merci, mon Dieu, que toute la gloire te revienne, mon Dieu. Amen.
Amen. Amen. Merci Seigneur. Seigneur, il n'y a pas de hasard, Seigneur, dans ton royaume, Seigneur. Il n'y a pas de hasard avec toi, Seigneur. Tu es le Dieu de la vie, Seigneur. Et comme le disait mon frère tout à l'heure, il y a une différence, Seigneur, entre présenter et être baptisé, Seigneur. Et ce matin, nous te présentons, Seigneur, Timothée, Seigneur. Nous te le présentons, Seigneur, parce que nous prophétisons tous ensemble ici, Seigneur. Nous prophétisons, Seigneur, sur lui, Seigneur, une vie merveilleuse en Jésus-Christ. Nous prophétisons, Seigneur, nous te le remettons, Seigneur. Nous te le présentons. Seigneur, nous prophétisons que Timothée, Seigneur, pour toute sa vie, Seigneur, fera le choix, Seigneur, tout simplement de te servir. Nous voulons poser, Seigneur, notre main, Seigneur, qui n'est pas la nôtre, mais qui est la tienne en Jésus-Christ, afin, Seigneur, que Timothée soit vraiment, Seigneur, un enfant de Dieu. Nous le prophétisons parce que nous sommes le peuple de Dieu. Nous le prophétisons, Seigneur, parce que nous ne voulons rien d'autre que toi, Jésus. Et nous voulons pour Timothée le meilleur, Seigneur. Et nous savons que si nous voulons le meilleur, eh bien toi, Seigneur, qui es son Père, tu veux encore plus que nous. Alors, Seigneur, tous ensemble, prophétisons que Timothée est ton enfant déjà aujourd'hui dans le nom précieux de Jésus. Amen.
Alors Seigneur, ensemble, nous recevons toutes ces bénédictions, ta protection prophétique, Seigneur, au nom de Jésus. Nous croyons que tu vas les bénir jusqu'à l'âge adulte lorsqu'il va pouvoir lui-même prendre sa destinée en main, sa décision personnelle pour ta gloire. Amen.
Non, je te l'avais promis que je te le rendrais, alors je te le rends maintenant. Amen. Et puis il y a aussi Harry, qui est déjà un petit peu plus grand, qui se tient debout. Et il marche déjà. Yes. Ouais. Vous n'avez pas entendu, il a fait... On va prier pour Harry. Ça va, bonhomme? Tu veux venir dans mes bras? Je peux te prendre? Tu viens avec moi? Viens avec moi. Pas longtemps. On reste à côté de maman. On reste juste à côté de maman. Regarde, maman, elle est là. On va prier pour toi? Est-ce que vous voulez prier aussi pour Harry? Tendez vos mains vers Harry, puis on va prier pour lui. Seigneur, mon Dieu, je te loue et je t'adore pour ce petit garçon qui est magnifique, Seigneur. Déjà, il marche. Et notre prière, c'est qu'il marche dans tes voies. Seigneur, notre prière, en te présentant Harry ce matin, c'est que lui aussi grandisse avec la crainte de l'Éternel dans le cœur. Et que lui aussi, Seigneur, il puisse découvrir ton amour infini pour lui. Seigneur, alors qu'il est dans l'enfance, dans l'innocence, eh bien que déjà tu puisses mettre dans son cœur qu'un jour il te servira. Seigneur, je veux moi aussi prophétiser sur cet enfant en te disant que ma prière, c'est qu'il devienne un grand homme de Dieu. Un homme qui t'adore, qui te loue. Et peu importe, Seigneur, l'empreinte qu'il laissera. Simplement, moi, je te demande de laisser une empreinte profonde dans sa vie et dans son cœur. Afin que cet enfant grandisse et qu'il devienne un enfant de Dieu. Qu'il puisse t'appeler son papa. Au nom de Jésus. Amen. Je demande au pasteur Antoine Nosek aussi de prier pour Harry.
Alors Seigneur, tu les bénis. Alléluia. Que ta bénédiction soit sur lui au nom de Jésus. bénis aussi maman, Seigneur. Nous recevons ta bénédiction au nom de Jésus, ta protection sur lui, pour ta gloire. Amen. Alors, Christiane voulait prier aussi.
Seigneur, je te remercie pour Harry. Il n'est pas le produit du hasard. Mais s'il est là, Seigneur, c'est parce que tu as bien voulu qu'il soit là, Seigneur. Alors ce matin, nous le remettons devant ta face, devant ton trône, Seigneur. Et nous te demandons ta protection, Seigneur. Que ton amour puisse l'émerveiller, Seigneur. Que ton amour puisse l'inonder, Seigneur. Et que tous les jours de sa vie, Seigneur, tu le guides, tu le diriges, ainsi que sa maman, Seigneur. Oh, elle a beaucoup de questions, sa maman, Seigneur. Mais toi, tu vas lui répondre, comme tu as répondu à Michaël, Seigneur. Oh, Seigneur, tu les bénis ensemble, Seigneur. Et qu'ils puissent grandir dans la foi. Ensemble, Seigneur. Merci de faire d'Annette une mère responsable, une mère qui sera un repère pour Harry, Seigneur. Oh, merci. Je te fais confiance, Père, et je te les remets tous les deux dans tes mains, Seigneur. À toi toute la gloire. Amen.
Amen. Bon, ça va, Harry m'a adopté. On rigole ensemble, déjà, on est des potes. Hein, mon grand ? Amen. Amen. Pouvez applaudir ces deux enfants. Et n'oubliez pas de prier pour eux, de les bénir. À chaque fois que vous le pouvez, à chaque fois que vous y pensez. Amen. Alors on va baptiser Michaël maintenant. On va baptiser Michaël. Et que ce soit encore une fête. Ça va encore être la fête. Allez, je te rends maman.
Est-ce que vous allez bien ? Ça va ? Ça se passe bien ? Regardez, moi je suis tellement à l'aise que je me suis mis en short. Ça va ? Et en tongs ? Merci, Christiane, elle appuie sur les tongs. Ils sont sympas mes tongs. Tout à l'heure on m'a dit, Frédéric, les vacances c'est fini. Bah non, voilà. Alors moi ce que j'aime bien quand je suis comme ça devant une foule, et que j'aime bien quand j'ai un peu la direction des choses, je vais vous demander de vous lever. Ah, il y en a qui se disent, qu'est-ce qu'il va encore faire, le Fred ? Et je voudrais qu'on acclame Jésus-Christ. Amen ! Allez, plus fort que ça encore ! Encore plus fort ! C'est tout ? Vous savez faire que ça ? Alors ! Ouais ! Alors il est 11h20, on peut aller comme ça jusqu'à 18h ce soir. Vous pensez qu'il nous a entendus ? Bon, je vais proposer, vous disposer, mais je vais proposer à la famille de Michaël, si vous voulez vous approcher, c'est un moment de joie. En fait, il nous a dit que lorsqu'il y a quelqu'un qui revient à Jésus, il y a une joie immense dans le ciel. Et moi ce que je voudrais ce matin, c'est qu'il n'y ait pas que la joie dans le ciel, mais il y a aussi la joie ici sur terre, ici au phare à Lille. D'accord ? Alors on va y aller. Tu mets sur le Antonia, sur le numéro 2, s'il te plaît.
plaisir de se rencontrer le dimanche et les autres jours. Ensemble, partager avec amour nos vies et toute notre amitié. Nous avons tous la même foi, le même Dieu à qui l'on croit. Avec amour, nous le louons, tous ensemble, nous l'adorons. Nous venons de diverses villes. Nous sommes tous très différents, tous éduqués différemment. Nos vies en sont la référence. Bien que tous très différents, quand nous sommes sous le même toit, nous ne ressentons pas de différence. C'est que nous avons tous en commun le même Dieu, Jésus, et la même foi. Car dit-on qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Et nous, nous lui disons, la main dans la main, ah, quel bonheur d'être ensemble.
Amen.
C'est pourquoi dans cette église, nous partageons nos différences. Parce que chacun de nous réalise que nous formons une grande famille. Dans le même amour de Dieu, unis dans le respect mutuel, ensemble, nous glorifions notre Dieu par nos prières habituelles. Tous ensemble, Dieu, nous prions. À l'unisson, nous le chantons. Et si l'un de nous est dans la peine, tous ensemble, nous l'implorons. Car nous sommes certains qu'il nous aime et que nos prières ne seront pas vaines. Aimons-nous les uns les autres, car Jésus nous le recommande. Respectons tous sa volonté et restons à l'écoute des autres, puisque nous sommes ses apôtres. Vraiment, quel bonheur d'être ensemble.
Merci Jacques. Finalement, nous sommes tous devant la même question, mais oui, la vie passe tellement vite, les années passent tellement vite. Qu'est-ce qui va se passer plus tard? Vous savez quoi? Il n'y a pas longtemps, j'étais aussi un petit bébé. Tu crois? Et toi, tu crois? Vous croyez que j'étais petit bébé comme ça? Mais oui, il n'y a pas longtemps, l'adolescence, le combat, la vie devant moi, et tout à coup, on devient jeune. Et là, la même chose, je me suis posé la question, mais quel est le but de ma vie? Qu'est-ce qui va se passer plus loin? On m'a enseigné que Dieu n'existe pas. J'ai vécu dans un pays totalitaire où on nous a toujours enseigné que Dieu, c'est la matière, c'est le marxisme, c'est le hénisme, etc. Dieu n'existe pas. Dieu, c'est la matière. Et j'entendais parler de Dieu à la maison et je me suis dit, jamais ça, pas de religion. Je ne vais jamais accepter Jésus. Je ne vais jamais croire en Dieu. Et vous savez, la vie passe tellement vite. Et vous me voyez, ça fait depuis 40 ans, je parle toujours de Jésus, je parle toujours de Dieu. J'encourage tout le monde à croire en Dieu. C'est parce que j'ai reçu une conviction personnelle. Il fallait combler les vides par la réalité. Vous savez, quand vous avez un vide spirituel, vous allez vous occuper par le sport, par une religion, par d'autres activités, par toutes sortes de philosophies, mais jamais, jamais, vous n'allez pas pouvoir combler le vrai vide spirituelle qui existe en nous, là-bas, au fond de notre cœur. Voilà. Et ces vides, nous pouvons les combler par la foi en Jésus-Christ. Par la foi en Jésus-Christ, nous pouvons nous réconcilier avec Dieu Tout-Puissant. Par la foi en Jésus-Christ, nous pouvons espérer qu'il y a une vie nouvelle, meilleure dans l'éternité. Et c'est ce sujet-là que je vais vous apporter mon partage. Donc, voilà l'avenir, hein, mon partage, l'avenir, on prépare en présent. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle est convaincue, elle. L'avenir, on prépare en présent. En présent. L'avenir, tu prépares maintenant. Ce matin, je ne sais pas si l'horloge va bien, mais il est 11h30. Va pas bien? Bon, allez. À midi, va. J'ai voyagé avec Christiane beaucoup, voilà. Mais il y a à peu près 2 ans, on partait aux États-Unis. Et on était à l'aéroport de Bruxelles. Et voilà, les modalités des papiers, vous savez comment ça se passe. On se présente avec nos papiers devant la sécurité. La sécurité vérifie donc toutes les modalités. Puis on nous dit, vous ne pouvez pas partir. Parce qu'il nous manquait, voilà, quelque chose. Et finalement, nous sommes partis un jour plus tard. Parce qu'il fallait se battre ensuite, voilà, pour avoir ce qu'il fallait pour pouvoir partir. Et de cette histoire, finalement, j'ai appris quelques leçons. Et vous savez quoi? Voilà, la première leçon, c'était que avant chaque départ, avant chaque voyage, un long voyage, ben, il faut surtout vérifier toutes les modalités du voyage. Ensuite, il faut bien maîtriser le voyage. Il faut savoir où on va. Il faut connaître notre destination. On ne va pas n'importe où. On est d'accord? Si vous voulez aller aux États-Unis, ben, il faut aller aux États-Unis. Il ne faut pas aller en Russie, par exemple. Et ensuite, se préparer à des imprévus. Plusieurs fois, nous, on a loupé, enfin raté des avions par-ci, par-là, parce qu'il y avait l'orage, parce qu'il y avait, un empêchement. Une fois en Afrique, je me suis retrouvé toute une nuit, toute 24 heures, voilà, il fallait attendre un autre avion, parce que, il y a eu un problème, une panne. Donc il faut toujours se préparer à des imprévus. Il y a beaucoup d'imprévus. Ce matin, je suis arrivé là, et puis l'enseigne, donc, juste au-dessus du porche, là-bas, voilà, elle était détachée, puis ça voyageait comme ça. Et je ne pouvais pas laisser ça comme ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quelques vis, je suis allé par-ci, par-là, et puis, voilà, j'ai pas prévu ça. Ce matin, j'ai prévu de prier ici. Et j'ai dû prendre une pince, quelques vis, et puis accrocher le pendant, l'enseigne, vous comprendez? Voilà, il y a toujours des imprévus. Mais il faut être prêt à tout! Sinon, bon, on se décourage très vite et voilà, il y a un blocage. Alors, chers amis, vous savez tous, hein, voilà, nous avons présenté les bébés, nous avons baptisé un jeune homme, il y a d'autres personnes dont l'auditoire qui prendront le baptême plus tard, parce que voilà, ils préféraient attendre, etc. La vie passe tellement vite. Et sachez que sur cette terre, nous sommes comme des voyageurs. Comme des voyageurs. Voilà, petits enfants, ados, la jeunesse. Et tout à coup, on a des cheveux gris qui se manifestent. Oh là là, qu'est-ce qui m'arrive? D'autres ont plus de chance, ils ne perdent pas les cheveux. Mais pour tout le monde, de la même façon, les années passent. On est d'accord? Voilà, donc nous sommes ici sur cette terre. Voilà, et notre vie est comme un voyage, comme des voyageurs, mais il est clair que c'est pas aux USA, hein, c'est pas aux USA. Nous sommes là pour voyager. Et notre voyage, la destination de notre voyage, c'est quoi? C'est l'éternité. Tu crois? Tu crois pas? Tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord? Peu importe. La réalité est devant nous. Il y aura un moment où tous ensemble, tous, même tous ceux qui voulaient démontrer par tout X raison que Dieu n'existe pas, et à un moment, ils vont se retrouver devant un Dieu et ils vont dire « Quoi? Mais moi, je ne croyais pas que tu existes. Mais qu'est-ce qui m'arrive? J'étais un homme scientifique. Pendant toute ma vie, j'ai enseigné dans des universités, dans des séminaires, que Dieu n'existe pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis devant toi et je ne croyais pas que tu existais. Ah! Qu'est-ce qui va m'arriver? Je caricature un peu, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Mécanicien, médecin, pauvre, riche, patron, tous nous allons nous présenter devant Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui nous a donné la vie. C'est lui qui est notre créateur. Mes amis, je répète, les années passent. Qui pense que la vie va passer tellement vite? Oui, c'est une réalité. Nous allons prendre juste un message dans la Bible et vous allez voir, il est question là d'un certain homme qui était très intelligent, qui se posait des questions. Marc 12, le verset 28 à 34. Jacques, est-ce que tu peux nous lire parce que ta voix porte bien? Va comme ça, je me réponds un peu pour d'ostola. Oh là là, ça chauffe, il y a vraiment présence de Dieu. On est tellement heureux.
Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Jésus répondit : voici le premier. Écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta...
Voici le dialogue d'un scribe, un homme intelligent, un secrétaire, un homme qui avait une grosse tête, très intelligent, savait beaucoup de choses, il se posait des questions. Et il avait donc ici un dialogue avec Jésus et il a bien répondu donc à certaines questions. Et finalement, vous avez compris, Jésus voyant donc le dernier verset que nous avons lu, qu'il avait répondu avec l'intelligence parce qu'il était intelligent, intelligence, il savait beaucoup de choses, il connaissait beaucoup de choses, d'accord ? Il y avait toute une science religieuse, etc. Il était un homme aussi très actif dans la vie religieuse comme dans la vie de tous les jours. Et puis donc, il a répondu avec l'intelligence. Et Jésus lui dit, tu n'es pas loin du royaume, mais tu n'es pas dans le royaume. À l'aéroport, j'étais pas loin, j'étais là, c'était prêt, c'était voilà. Et puis, je voyais l'avion qui partait, j'étais presque dans l'avion, mais je n'étais pas dans l'avion. Je voyais les autres partir, et j'ai regardé là-bas, et mon avion est parti, mais je suis pas parti. J'étais tout près, voilà, de mon avion, mais je n'étais pas dans mon avion. Alors, vous avez compris ? Et la même chose dans la vie spirituelle. Là, Jésus répond à cet homme. Tu es pas loin, tu es tout près, tu es presque, mais tu n'es pas dedans. Et l'important, c'est quoi? C'est d'être entièrement, pas entier, dedans. Faites comme ça, dedans. Ah, ça fait du bien, ça, hein, Emmanuel. Ça nous libère, hein. Donc cet homme, il était pas loin du royaume de Dieu, mais donc, comme je vous ai dit, presque, mais pas dedans. Il lui manquait quoi ? L'essentiel ! Et l'essentiel, c'était quoi ? Crois que Jésus-Christ est le Sauveur. Que Jésus-Christ est celui qui était envoyé par Dieu Tout-Puissant, le Créateur, pour sauver l'humanité. Tu veux ou tu ne tu veux pas, tu crois ou tu ne crois pas, je répète. Il y aura un moment où nous allons donc tous présenter devant la réalité. Et c'est pourquoi c'est aujourd'hui que nous préparons la réalité, l'avenir. Donc le royaume de Dieu, c'est l'ensemble de ceux qui ont accepté qui ? Jésus-Christ dans la vie. Les Actes des Apôtres, chapitre 16, nous dit, verset 31, nous dit, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Moi, Simon, ma femme et mes enfants. Moi, Ambroise, ma femme aussi, hein, ma femme aussi. Et mes enfants. Amen. Moi, Daniel et Laetitia, nos enfants, et nos petits-enfants, et aussi petit Timothée. Est-ce que vous croyez? Ah. Oui, Seigneur. Quelle grâce. Alors voici, si tu veux, ici midi moins 10, entrer dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie, c'est la réconciliation avec Dieu Tout-Puissant par la foi en Jésus-Christ. Si tu veux entrer aujourd'hui dans... Enfin, maintenant, dans le royaume de Dieu, qu'est-ce qui te reste à faire ? Accepter Jésus comme dans ta vie, comme ton sauveur. Le faire de savoir, connaître l'histoire, c'est pas assez. C'est accepter Jésus. De dire à Jésus, Seigneur Jésus, viens habiter dans mon cœur. Comble mon vide. Je veux te confier ma vie et par la foi en toi, je vais assurer mon éternité, mon avenir. Alors, vous savez, il y a... pourquoi il faut préparer l'éternité ? Parce que l'éternité, c'est pour tout le monde. Hein. Tu es croyant, tu es pas croyant, bon ou mauvais, peu importe, la vie continue. Vous savez, la mort de notre corps, c'est juste un passage. Et puis la vie continue. Mais il y a des gens qui choisissent Jésus-Christ pour vivre avec lui. Et il y a des gens qui ne choisissent pas Jésus dans leur vie et ne vont pas pouvoir vivre avec Jésus. Aïe, 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 vous savez quoi? Tu es d'accord ou non? Tu crois ou non? Ben, ça sera comme ça. Alors, l'autre côté, c'est l'enfer, c'est les tourments éternels. Je vous fais pas peur, mais je vous aime tellement, j'ai dit. Et je vous encourage de choisir la vie en Jésus-Christ. Amen. On va prier, je vais pas être long ce matin parce que... Le temps passe vite et vous avez déjà entendu beaucoup de choses. Nous allons prier ensemble. On va se concentrer dans nos pensées, dans notre cœur. Et pensez à l'expression de Michael, le vide en fait. Il lui manquait quelque chose. Et cette expression forte, l'espoir. L'espoir, l'espérance, la certitude. Seigneur, est-ce que je veux vivre pour l'éternité avec toi dans la joie, dans la paix et dans la justice où je refusais? Et ça sera terrible. Alléluia. Seigneur, je te demande pour chacun d'entre nous maintenant. Seigneur, moi j'étais jeune, j'étais devant un choix. Et il y avait devant moi la mort éternelle, la vie sans toi et la vie avec toi. Et puis pendant ces années, toutes ces années, Seigneur, je suis tellement heureux parce que je t'ai accepté, je t'ai dit, oui, Jésus, viens, habite dans mon cœur, dans ma vie. Par la foi en toi, je prépare l'éternité. Je vais vivre dans l'éternité, dans ta présence, dans la joie, dans la paix et dans la justice. Je veux me réjouir encore plus que ce matin ici. Ce matin, nous sommes là en train de goûter, juste de goûter de cette joie, Seigneur. Je ne voulais jamais, Seigneur, accepter une religion, une philosophie. Seigneur, c'est pas des religions qui nous sauvent. Seigneur, c'est pas des philosophies, Seigneur, c'est pas des leaders religieux, Seigneur, qui ont fondé des religions, etc. Mais je veux te...